approfondir le sujet de l'heure. Jusqu'à midi. Vous écoutez Dan Bigra.
Alors, le télétravail, les enfants avec qui on est beaucoup plus à plein temps, les amis, les chums qu'on voit moins, la perte de leur job pour plusieurs, ou l'angoisse de perdre sa job à court ou moyen terme. L'envie, justement, à cause de ça, des fois, de se réorienter. Il y en a qui décident de retourner à l'école, de déménager. Il y a un exode. Les gens sortent de Montréal beaucoup. Alors, on voit qu'on la COVID nous affecte de différentes façons. Et des fois, aussi de bonne façon, ça peut arriver que ça provoque des choses comme ça. Notre ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, avait dit aux artistes de se réinventer, ce qui m'avait fait sortir une coupe d'instruments d'église sur le moment, mais je trouvais qu'elle avait quand même raison, il faut se réinventer un peu. Alors, ça commence par soi-même. On peut pas réinventer toute la société. On se réinvente soi-même. Alors, ma question, vous vivez comment depuis la pandémie? Comment ça a changé vos existences? Vous avez juste à m'appeler au 514-790-9850 ou en dehors de la ville au 1-866-790-9850. Et tout de suite, j'ai avec moi Michel Barrette, comédien, humoriste. Salut, Michel.
Monsieur Dan, comment vas-tu?
Ça va bien, ça fait longtemps.
Ben oui, je te réalise que ça fait longtemps.
Oui.
Mais je suis content de te jaser, sujet intéressant ce midi, et tu tombes pile en plus parce que j'ai un peu réagi comme toi lorsque la ministre nous a dit aux artistes, réinventez-vous. J'ai eu le goût de dire, mais écoute, moi dans la vie, je fais des jokes, je vais pas me mettre à faire autre chose. Mais en même temps, tu as aussi raison parce qu'on était obligé de prendre un temps de réagir, puis après ça, se dire, bon, mais étant donné que la situation est la même pour tout le monde, qu'est-ce que je vais faire? Puis je vais t'avouer que ma première réaction était un peu agressive parce que j'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ma dernière tournée à vie, tu sais, j'étais à 3 ans et demi de prendre ma retraite. Voyons donc, laissez-moi faire mes shows, remplissez les salles. Là, j'ai dit, ah, Barrette, calme-toi, là, t'es pas seul sur ce bateau-là. Là. Et j'ai apprécié après ça. Je me sens un peu coupable de dire que presque les 6 derniers mois, ou à chaque jour, ou à chaque 2 jours, mon téléphone m'envoie une indication comme quoi je suis supposé être en show à Sept-Îles, à Valleyfield, puis à Val-d'Or, là, que je me dis, ben regarde, je suis pas en show, je suis chez moi, avec ma femme, mon plus jeune, et je commence à l'apprécier de plus en plus. Je dis pas que j'ai pas le goût de monter sur scène, mais en même temps, j'ai été obligé de me dire, t'as un petit peu, là, à côté de quoi tu es en train de passer? Oui, je ferai mon dernier show, mais j'ai réalisé que les 40 ou presque 40 dernières années où j'ai travaillé, je suis un chanceux, un privilégié, mais j'ai travaillé beaucoup, 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 et je suis peut-être passé à côté de quelques affaires. Tu sais, tu travailles beaucoup, tu fais des sous, tu es content, le monde te reconnaît.
Oui, alors d'un côté, tu t'es quand même mis des sous de côté sur lesquels tu peux compter, donc tu es moins angoissé maintenant, c'est une très bonne chose. Puis d'un autre, effectivement, tu es passé à côté d'une couple d'affaires.
Et parlant de sous, oui, après 40 ans, tu fais tes devoirs puis tu essaies de quand même faire attention à tes sous, mais on vit toujours selon nos moyens. On s'entend? C'est-à-dire que si tu gagnes à 10 000 par année, ben t'as un rythme de vie qui ressemble à 10 000 par année. Puis si t'en gagnes plus, ben habituellement, t'as plus de bébelles, t'as plus de loisirs coûteux et tatata. Ça aussi, il a fallu que je me dise, ouais, t'as un petit peu, là, Barrette, là. Lorsque c'est pas prévu, tu dis, tu passes de...
Ah, c'est dans ton budget, toi, tu prévois ta prochaine tournée toujours, on s'en rend même pas compte.
Ouais, on s'en rend pas compte, puis bon, soyons honnêtes, là, ça pourrait pas mal plus mal tomber, parce que bon, la dernière tournée, j'étais copropriétaire d'un hôtel, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, j'ai dû céder mes parts à mon associé, parce que le revenu d'hôtel se faisait l'été, puis l'été qu'on est en train de passer... si on peut l'oublier, donc c'est un été sans revenu.
J'ai parlé à tellement de restaurateurs, et même ici, à cette émission-là, ils en arrachent tellement. Là.
Oui, parce que les profits sont minimes, mais et comme notre hôtel est un hôtel d'événements, ben, s'il n'y a pas d'événements, s'il n'y a pas de noces, s'il n'y a pas de spectacle, s'il n'y a pas de la fête des grands-mamans, tu sais, dans le fond, tu fais tes sous l'été et tu survis l'hiver en souhaitant que la balance entre l'hiver et l'été soit positive. Bon. Alors déjà, de quitter l'hôtel... Et moi, en plus, je vivais à l'intérieur de l'hôtel. Alors là, tu quittes l'hôtel, tu quittes ta résidence. Alors, il faut que tu corriges le tir, que tu t'achètes autre chose, ce que j'ai fait. Alors, disons que financièrement, ça fait une drôle de pirouette. Mais bon, ça aussi, ça fait partie
on s'adapte. De ce qu'on L'humain vit, s'adapte. C'est comme ça qu'il a survécu depuis qu'il est descendu de la branche d'un arbre. C'est Darwin
oui,
qui disait c'est pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, c'est celles qui s'adaptent qui survivent. Donc ça, c'est dans l'humain de le faire. Alors oui, Mme Roy, on cherche à se réinventer.
Oui, mais s'adapter, parfois, là, on le fait un peu dans la misère parce que, tu sais, il y a des gens qui se disent, écoute, moi, j'ai tout perdu ou j'ai vraiment pas les moyens de corriger le tir puis de me réétablir. Bon, heureusement, ça n'a pas été mon cas, mais en même temps, ça fait partie de ma nature. Je t'explique. Moi, dans ma vie, à chaque fois que j'ai fait un virage à 180 degrés, j'ai aimé ça. Moi, il y avait mon père qui était un gars qui était insécure, qui avait des occasions d'affaires, qui sautait pas dessus. Lui, c'était d'abord et avant tout travailler à l'usine, rentrer son salaire le jeudi. Et bravo papa, merci papa, là, tu sais. Ma mère, elle était plus du type aventurière, puis elle aurait été plus du type à prendre des chances. Et le jour où mon père m'a avoué, il dit, garçon, j'ai travaillé 35 ans à l'usine et j'ai haï chaque journée que je suis rentré dans cette usine-là. J'ai dit, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, pas. T'as haï chaque journée, mais quand t'as passé ta vie dans l'usine, puis t'as haï ça chaque jour, oui. Mais
ouais, par angoisse, il avait besoin de quelque chose de stable, absolument, il pouvait pas fonctionner autrement.
Non. Puis lui, il disait, en même temps, il avait raison. Ben, c'était l'époque qui était comme ça aussi. Il disait, écoute, c'est important, j'avais 4 enfants, puis c'est important de payer à la maison que l'épicerie soit faite, que vous ayez à manger, que vous soyez capable de vous habiller, d'aller à l'école, d'être à table. Merci, pas. Mais en même temps, il a fait sacrifice d'un certain bonheur qu'il aurait pu trouver ailleurs, mais il aurait dû prendre des risques, ce qu'il ne voulait pas faire dans la vie. Puis quand je vois des gens, puis j'admire ça, les gens qui font, oh, t'as un peu honnête, là. Je pars en croisière, moi, on a vendu la maison, on s'est acheté un voilier. On fait le tour du monde, on fera l'école aux enfants. Ça me ressemble. Et ça ressemble à ma mère. Mon père a dit, es-tu fou, lui? Es-tu fou? Les enfants vont crever, puis ils n'auront pas d'argent, puis ils vont le regretter. Mais bon. Alors, c'est un peu, je donne ça comme exemple parce qu'on est tous un peu face à une espèce de choix qu'on a à faire comme ça. Les gens ont découvert le télétravail pour ceux qui étaient possibles. Ils ont découvert le plaisir d'être à la maison. Ils ont découvert autre chose parce qu'ils ont été obligés. Ils ont dû Alors, si c'est ça, se réinventer, bien, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait.
C'est pas se réinventer. Ça, c'est juste s'adapter à quelque chose dont, on va se le dire, c'est très grave. Ça va rester dans les livres d'histoire pour 1000 ans, ça. C'est quelque chose d'énorme qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup nos vies. Mais ça, c'est s'adapter, c'est pas se réinventer. C'est s'adapter à une situation. Puis effectivement, il y en a qui font ça beaucoup plus dans la douleur. Ceux qui perdent leur job maintenant, il y a des compagnies qui mettent 18 000 employés dehors en même temps. Tous ces gens-là, là, à un moment donné, t'as un bout de chômage, puis après ça, c'est le BS. Je veux dire, c'est de la grosse, grosse, grosse détresse. On parlait de santé mentale au début de l'émission. Je te dis que ça en fait partie, ça. L'angoisse, la dépression chez les gens qui perdent tout. On en parlait il y a quelques jours. Il y a un campement qui commence à s'installer, c'est à la rue Notre-Dame, de sans-abri, qui sont pas juste les sans-abri qu'on connaît, mais qui sont les nouveaux sans-abri. Ceux qui ne sont pas trouvés de loyer à Montréal, c'est trop cher. Puis ceux qui ont perdu leur job, puis là, il va en avoir de plus en plus. C'est une nouvelle réalité. Fait que de dire qu'on peut... Même, je trouve que de rêver à ce que ça revienne comme c'était avant, je trouve ça à la limite un peu dangereux. Je pense qu'il faut regarder plus en avant, sans trop savoir ce que c'est en avant, puis essayer d'imaginer des choses différentes. Moi, je sais, j'ai quelque chose qui vont reprendre, mais je veux dire, c'est une minorité. Quand tu es obligé de respecter une distanciation physique, c'est pas toutes les salles qui peuvent. Tu comprends, une salle?
Oui.
Parce que quand j'ai annoncé, moi, que, jusqu'à 250 personnes, il y a du monde qui disait, ben, écoute, la salle de 300, on est content. Non, non, non. Ça, c'est des salles de 1200. Les salles de 300, alors, eux autres peuvent recevoir juste 20 ou 30. 20 ou 30 personnes, tu peux pas payer, tu payes même pas le son pour l'éclairage.
Ben, God, on va donner un exemple. Mettons les dates que j'avais à Québec, à Albert Rousseau. Tu as 1800 personnes dans la salle. Imaginons que tu as un billet pour ce show-là. Mais si tu y vas avec la distanciation, mettons qu'on va au maximum de 250, il faudrait que je donne, je fais pas le calcul, mais rapidement, mettons 7 ou 8 fois le même show dans la même salle pour que les billets achetés pour cette date-là soient...
Que ça arrive à un profit au bout de la ligne, ou au moins à faire tes frais, c'est certain.
Oui, mais ça ne marchera pas parce que c'est que l'artiste aura... 8 fois plus de frais, de technique, etc.
Et la salle aussi.
Et la salle aussi. Mais alors, au bout de l'exercice, si on fait le calcul d'une tournée complète, j'ai fait un calcul rapide. Il faudrait que je sois actuellement sur scène 350 jours par année pour que les gens qui ont des billets en main puissent que je puisse honorer les billets.
C'est pas déjà ça que vous faites, les fatigants d'humoristes?
Des maudits fatigants.
Des maudits fatigants.
Non, mais là, mais si tu fais 350 fois Albert Rousseau plein, merci Seigneur, mais si tu fais 350 fois des salles à 250 places, au bout de l'année, tu n'auras pas fait un sou, puis tu vas avoir honoré les billets, mais tu tournes à vide, tu sais.
Oh oui, je comprends. Puis là, je te taquine parce que ça fait très, très, très longtemps que les humoristes vendent beaucoup plus de billets de spectacle maintenant que les musiciens. Je m'en suis aperçu il y a quoi, 10-15 ans. C'était pas comme ça avant. Quand Yvon Deschamps est sorti, c'était vraiment des chanteurs qui prenaient la première place. Ça a changé. Puis j'ai compris. Le monde, quand ils sont déprimés ou angoissés, ont besoin de rire. J'ai été voir ton show parce qu'à un moment donné, je passais une période, j'étais écœuré d'être stressé. Tu m'as fait pisser dans mes culottes, c'était fantastique. J'étais voir Mariana Mazza comme ça. Écoute, c'était l'équivalent de 2 ans de thérapie. Je comprends que le monde va rire. C'est normal. Si t'es déprimé, va pas voir Bigra qui chante « Tue-moi », tu vas te tuer toi-même.
On rit, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais à quelque part, t'as absolument raison. Parce que, et je le sens, parce que les gens que je rencontre me disent « Êtes-vous... » Parce que bon, mettons, je suis en dehors de ma région, me disent « Hey, êtes-vous en chaud dans le coin? » Alors, j'aimerais ça, tellement ça, madame. Mais vous comprenez qu'on peut pas, on n'a pas le droit. Ah, ça nous ferait tellement du bien, justement, ce que les gens ont besoin. Et c'est pour ça que, en télévision, comme sur scène, en tout cas, quand on remontera sur scène, je pense que t'as raison que les gens auront encore plus le goût de rire qu'ils avaient le goût avant cette pandémie.
Michel, je vais te garder. On va prendre une petite pause. Juste relancer mon petit message. Vous vivez comment depuis la pandémie? Je sais que tout le monde vit différemment maintenant. Alors, je vais vous m'appeliez au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850. Et nous autres, on revient avec Michel Barrette tout de suite après la pause.